vous invite à trouver la première lettre de Paul aux Thessaloniciens. Merci. C'est bon comme ça. La première lettre de Paul aux Thessaloniciens. Nous allons lire quelques versets dans cette épître de Paul. C'est une épître qui est courte. Il n'y a que 5 chapitres. Et selon mes calculs, mais je risque de me tromper, il y a 89 versets. Donc c'est une épître qui est courte et qui contient plusieurs thèmes. Au mois de février, j'ai fait un message sur le thème de la conversion selon 1 Thessaloniciens. Au mois de mars, j'ai fait un message sur le thème de la consolation. Et ce matin, nous allons regarder un autre thème et il s'agit du thème de la consécration. Conversion, consolation et ce matin, la consécration. Peut-être dans quelques semaines, je vais faire un autre thème qui commencera de la même manière. La consécration. Alors, il faut juste savoir que le mot consécration sont pas de deux manières différentes. On parle de consécration, ce qui veut dire approbation ou reconnaissance publique. Par exemple, un acteur qui a enfin reçu le César du meilleur acteur. Quelle consécration! Il a bien mérité ça en fin de carrière. Ça, c'est une utilisation du mot consécration. La deuxième utilisation, c'est le fait d'être consacré à quelque chose ou consacré à quelqu'un. Au stade Gerland, tous les week-ends, ou on va dire tous les deux week-ends, il y a des milliers de personnes consacrées à une équipe dont on connaît tous le nom. Être consacré à quelque chose ou consacré à quelqu'un. Et si on connaît la consécration à quelque chose ou à quelqu'un, on fait preuve de loyauté et de fidélité. D'où l'importance de se poser la question, est-ce que nous sommes des chrétiens consacrés au Seigneur? Est-ce que nous sommes des chrétiens consacrés à son Église, à son œuvre? J'étais interpellé il y a quelques jours en lisant un rapport missionnaire d'une sœur qui travaille au Rwanda et elle a parlé d'une journée, de conférence pour femmes. Cette journée commençait à 9h du matin et finissait vers 18h du soir. Et plusieurs dizaines de femmes ont décidé de partir de leur village dans la Brousse pour se rendre à cette conférence. Et il s'agissait de 5 heures de marche. Donc ça a commencé à 9h du matin, donc vous calculez comme moi, elles ont dû partir de chez elles à 4h du matin. 5 heures de marche, une journée de prédication, et le soir, rebelote, 5 heures de marche. Ça c'est des femmes consacrées. Consacrées au Seigneur. Alors ce matin, j'aimerais attirer votre attention sur 3 caractéristiques du chrétien qui est consacré selon 1 Thessaloniciens. Il y a la foi, il y a l'amour et il y a l'espérance. Je ne vais pas trop m'attarder sur l'espérance puisque Colin en a parlé dimanche dernier. Et pour ceux qui connaissent 1 Corinthiens 13:13, il est écrit 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Et le plus grand, c'est l'amour. Et selon Paul ici, il inverse un peu, il change l'ordre des choses, il parle de la foi, de l'amour, et puis de l'espérance. Alors, je vous invite à trouver 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 3, et puis chapitre 5, verset 8. 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 3. Nous nous souvenons sans cesse devant Dieu notre Père de l'œuvre de votre foi, du travail de votre amour et de la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. Et chapitre 5, verset 8. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres. Revêtons la cuirasse de la foi et de l'amour, ainsi que le casque de l'espérance du salut. La foi. Il est question de la foi dans 9 versets dans l'épître de Paul aux Thessaloniciens, ça veut dire un verset sur 10 à peu près. la foi. Paul dit au chapitre 1, verset 8, que la foi des Thessaloniciens était connue partout, en Macédoine, dans le nord du pays, et en Achaïe, dans le sud du pays. Partout en Grèce, les gens savaient que les chrétiens de Thessalonique avaient la foi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, avoir la foi? Selon le dictionnaire, il s'agit d'avoir une adhérence ferme à une vérité révélée. Intéressant que le dico parle de la foi comme ça. Et un chrétien, il a une adhérence ferme, j'espère, à une vérité ou à la vérité révélée par Dieu en Jésus-Christ. Et être un chrétien fidèle, c'est pas seulement avoir une adhérence ferme à une vérité révélée, mais c'est aussi être quelqu'un qui remplit ses engagements. Quelqu'un qui est constant dans son attachement envers le Seigneur, coûte que coûte. Il y a l'aspect à la fois intellectuel et l'aspect pratique. Parce que Paul parle des chrétiens ici, il dit, mais vous avez une foi agissante. Il parle du travail de leur foi. Et dans une autre version, il est écrit, vous avez une foi agissante. Une foi qui bouge. Une foi qui se voit. Une foi qui œuvre. Notre confiance, notre foi est dans le Seigneur. Même si on n'a pas trop confiance en soi, ce qui est peut-être normal, mais notre confiance est en Dieu parce que notre compétence vient de Dieu. Grâce à lui, notre foi peut être une foi agissante. Il est question aussi de la cuirasse de la foi. 1 Thessaloniciens 5, verset 8. Alors ça peut vous surprendre parce que si vous connaissez Éphésiens 6, il est question de la cuirasse, mais de la cuirasse de la justice. Alors Paul ne se trompe pas, bien sûr, mais ici il parle de la cuirasse de la foi. D'ailleurs, pour la petite anecdote, à l'enterrement de Madame Thatcher, il y a quelques jours, à Londres, sa petite fille a lu Éphésiens 6, 10 à 20, l'armure du chrétien, devant les camarades de la télévision du monde entier. J'ai trouvé ça intéressant. Bon, je ferme la parenthèse, hein. Oh, je ne vais pas parler de Madame Thatcher ce matin, ni dimanche prochain. En tout cas, la cuirasse de la foi. Pourquoi est-ce que Paul dit « mettez la cuirasse de la foi » La cuirasse protège quoi? Le cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Le chrétien doit mettre la cuirasse de la foi pour protéger son cœur, pour protéger ses sentiments, pour protéger, comme disaient les anciens, les entrailles. On doit se protéger. Et je ne sais pas si vous le faites, mais je vous encourage le matin, chose que j'ai fait pendant des années, à mettre intentionnellement la cuirasse de la foi. En se levant comme vous vous habillez, prenez la cuirasse et mettez-le sur vous. Attachez-le derrière votre dos pour protéger vos sentiments, votre cœur. Trop souvent on dit, oh ce chrétien-là, il est trop sentimental. Il est trop émotionnel pour ceux qui font des liaisons là où il n'y a pas de liaison. Et d'autres disent, il est trop émotionnel parce qu'il vit sur les sentiments. Et les chrétiens doivent veiller sur ses sentiments. Ils doivent veiller sur son cœur. Ils doivent veiller sur sa foi. La cuirasse de la foi. Si nous mettons la cuirasse de la foi de façon intentionnelle, nous serons des serviteurs fidèles. Comme Tychique, serviteur fidèle. Comme Epaphras, fidèle serviteur. Comme Sylvain, frère fidèle. La foi nous permet d'être fidèles dans ce que nous faisons. Et la foi nous permet d'avoir une fidélité envers le Seigneur. Je vois cela dans la vie du prophète Ésaïe. Parce que Ésaïe a dit ceci au chapitre 8. Je me confie en l'Éternel. Même s'il cache sa face à la maison de Jacob, je place en lui ma confiance. Ésaïe dit, même quand je ne comprends rien, je me confie en lui. Même si je suis dans le désert, je me confie en Dieu. Et si vous vivez un moment de désert spirituel, sachez bien que Dieu peut dresser une table dans le désert. Et Dieu peut vous rencontrer dans le désert mais il vous invite à venir à lui. La cuirasse de la foi, avoir une foi agissante. Grâce au Seigneur, lorsque nous prions, nous pouvons avoir une foi agissante. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Grâce au Seigneur, nous pouvons avoir une foi agissante lorsque nous sommes éprouvés. Pierre dit aux chrétiens dans 1 Pierre 4 que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu s'en remettent à lui comme au fidèle Créateur. Avoir une foi agissante. Je vais vous lire un verset que j'ai découvert il y a 15 jours seulement. Vous savez, ça fait des années que je lis la Bible et parfois je redécouvre des choses et parfois je découvre quelque chose pour la première fois. Comme si c'était la première fois que j'ai lu ce verset. Un verset dans le psaume 10. Seigneur, tu vois leur peine et leur souffrance. Tu regardes pour prendre en main leur cause. C'est pas mal, hein? Que quelqu'un prenne en main ma cause. Et c'est le Tout-Puissant qui prend en main notre cause. Tu entends les désirs de ceux qui souffrent. Tu leur redonnes courage. Tu prêtes l'oreille. Prêter l'oreille. C'est un terme qui revient souvent dans les psaumes. Dieu nous prête l'oreille. Le psaume 10, verset 14, je n'ai pas dit 15, le psaume 10, verset 14 et le verset 17. Dans la Bible, Nouvelle Seconde 21. Avoir la foi malgré les épreuves, malgré les difficultés. Hier, j'ai acheté un nouveau livre. Ça s'appelle, c'est l'autobiographie de Roland Giraud, l'acteur. J'ai lu 100 pages hier soir. Je vais finir les 100 dernières pages ce soir ou cet après-midi, j'espère. Et dans ce livre, il parle de sa foi. Sur la deuxième page, il y a un verset biblique. Sur plusieurs pages, il y a des versets bibliques. C'est étonnant de lire comment il parle de sa foi en Dieu, malgré, et c'est le chapitre que je vais lire ce soir, la mort de ses deux enfants. On sait tous qu'une fille a été assassinée, mais il a perdu ses deux enfants. Les épreuves, la foi, l'importance de lire la Bible, l'importance d'aller au culte. Il parle des cultes qui l'animent dans son église d'origine, dans son église où il s'est converti. La foi, avoir la foi, c'est d'être conscient d'avoir la main de Dieu sur nous. Avoir la foi, c'est d'être conscient d'avoir les yeux de Dieu sur nous. Avoir la foi, c'est d'être conscient d'avoir l'oreille de Dieu. Il nous prête l'oreille. Notre foi est-elle visible, est-elle agissante, malgré nos épreuves, les contretemps, les difficultés? J'espère que oui. Ah, la cuirasse. J'aurais dû mettre ça tout à l'heure, mais bon, peu importe. Deuxième chose, la foi, après la foi, il y a l'amour. Je vais lire un autre verset dans 1 Thessaloniciens au chapitre 4. Et le verset 9 et 10. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous êtes vous-même instruits par Dieu en vue de l'amour réciproque. C'est aussi ce que vous faites envers tous les frères de la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à progresser encore. Il est question de l'amour des Thessaloniciens dans 6 ou 7 versets dans cette courte épître. Et Paul le dit. Eh bien, vous vous aimez. Ça se voit. J'ai pas besoin de vous encourager, vous aimer davantage, mais sachez qu'il y a toujours du progrès à faire. À deux reprises au chapitre 4, Paul leur dit, il faut progresser encore. Je ne sais pas si quelqu'un ici habite dans la rue du progrès. Je ne sais pas si c'est Lyon ou Chassieux, cette rue-là, là où il y a l'usine du progrès. Je ne sais pas si on doit s'abonner au progrès tous les jours. Mais nous devons habiter, pour ainsi dire, dans la rue du progrès. On a toujours du progrès à faire de notre vie avec le Seigneur. Ne disons jamais, ça y est, je suis arrivé. Je mérite ma médaille. Jamais. Nous avons toujours besoin de progresser. Et dans un domaine en particulier, Paul dit, on n'a pas besoin de vous exhorter, mais quand même, s'il vous plaît, progresser dans l'amour fraternel. Encore, Paul dit que dans la Macédoine, dans la moitié du pays, tout le monde sait que vous vous aimez. Est-ce que tout le monde sait que nous nous aimons dans la moitié de Lyon? Dans la moitié de Lyon 8e? Dans la moitié de la rue Sonnera? Au numéro 20, à côté, la famille sait que nous nous aimons. Et on les aime aussi, la famille Tourniquet. En tout cas, ça ne suffit pas. Il faut que tous sachent qu'on est inspirés, motivés par l'amour du Seigneur. Nous l'aimons, il nous aime, nous nous aimons les uns les autres. Et vous avez remarqué que dans l'autre verset que nous avons lu tout à l'heure, il était question de nouveau de la cuirasse de l'amour. Et encore, je crois que nous devons nous revêtir tous les matins avec la cuirasse de la foi et avec la cuirasse de l'amour. Pour qu'on puisse, de façon intentionnelle, se dire, Seigneur, aide-moi à aimer ceux que j'ai du mal à aimer. Seigneur, aide-moi à aimer ceux qui ne m'aiment pas. Il y a toujours des gens qui ne m'aiment pas. Ça vous étonne, je suis sûr, qu'il y a des gens qui ne puissent pas m'aimer. Mais il y a toujours des gens qui ne nous aiment pas. Mais nous devons prier, Seigneur, aide-moi à aimer ceux que j'ai du mal à aimer. Aide-moi à aimer ceux qui ne m'aiment pas. Et aide-moi à ne pas avoir un amour sentimental, bidon, hollywoodien. Aide-moi à en avoir un amour vrai, agapé, un amour divin qui vient de toi. Tu ressembles à Jésus. C'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi. Tu ressembles à Jésus, c'est mon espoir suprême. Par ton esprit, rends-moi semblable à toi. Penser, agir, aimer comme Jésus. J'aimerais faire deux remarques au sujet de l'amour. Ça, c'est la nouvelle voiture de ma femme. Je viens parler dans quelques minutes. Je vous rappelle quelque chose qu'un chrétien m'a dit quelques mois après mon arrivée en France, c'est que le verbe aimer, c'est le verbe le plus difficile de conjuguer. Parce que le passé n'est jamais simple, le présent est toujours imparfait, et le futur est toujours au conditionnel. Merci Pénélope. En tout cas, l'amour du Seigneur n'est pas comme ça, mais l'amour humain est souvent comme ça. Pas simple, au conditionnel, imparfait. D'où l'importance de prier Seigneur ou de chanter, mais quand on chante, on prie, aide-moi à aimer comme toi, un amour parfait qui vient de toi. Une deuxième remarque par rapport à l'amour, c'est que aimer ne veut pas dire tout accepter. Vous savez, tous les deux dimanches, je prêche dans une autre église et je vois des choses qui sont assez graves, qui sont acceptées dans certaines églises parce qu'ils disent « Ah, mais nous nous aimons. L'amour couvre une multitude de péchés, David, c'est biblique. Et puis, peu importe ce qui se fait, tant qu'il y a l'amour, c'est ça qui compte. » Mais l'amour de Dieu ne veut pas tout accepter. Et il y a des erreurs gravissimes de nos jours qui sont parfois acceptées parce qu'on dit « Ah, c'est l'amour qui compte. La Bible, c'est secondaire. La doctrine, c'est pas important. Mais c'est l'amour qui compte. » Mais c'est faux. L'amour doit toujours aller main dans la main avec ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Un jeune homme sort de son travail et voilà sa voiture. C'est pas la voiture de ma femme, hein. Elle est trop petite, celle-là. Il sort de son travail et il voit un garçon sous sa voiture. Et le jeune homme dit, « Hey, sors de là !» Et le garçon sort de là, un petit garçon de 9-10 ans, avec des gros yeux. Et dit, « Mais monsieur, j'admire votre voiture. Quelle belle bagnole !»« Ah oui, mais ne touche pas, ne touche pas. Mais monsieur, ça a dû vous coûter une fortune !» Et le monsieur a dit, « Ah non, je vais vous dire un secret. Je ne l'ai pas acheté. »« Vous l'avez volé, monsieur ? »
Non, je n'ai pas volé. Mais vous savez, tu sais, j'ai un frère. Et mon frère me l'a offert. Oh, un frère. Ah, si seulement. Ah, si seulement. Et le monsieur a interrompu le garçon. Ah, je sais ce que tu veux dire. Si seulement j'avais un frère comme ça. Et le garçon dit, non, monsieur. J'avais dit, si seulement j'étais un frère comme ça. Parce que j'ai un petit frère qui est malade et mes parents ont du mal à acheter des médicaments. Mais si j'étais un grand frère avec beaucoup d'argent, je pourrais soigner mon petit frère. Je me dis, c'est ça l'amour. Ne pas de vouloir avoir un frère qui donne, mais d'être un frère ou d'être une sœur qui donne. Ou ce qui est mieux que de donner, c'est de se donner. Parce que l'amour n'est pas seulement donner, c'est surtout se donner. Et nous connaissons beaucoup d'enfants qui sont gâtés, qui ont tout, sauf des parents qui se donnent. Et nous devons prier, Seigneur, fais de moi un frère, fais de moi une sœur qui se donne aux autres pour toi. La foi, l'amour, l'espérance. Chapitre 1, verset 3. Chapitre 5, verset 8. Nous avons déjà lu ces versets. Il est question de l'espérance vivante, l'espérance chez les chrétiens de Thessalonique. Et il est question du casque. Est-ce que j'ai un casque? Voilà. Il dit, mettez le casque de l'espérance du salut. Quand Paul écrit aux Éphésiens, il parle du casque du salut. Et ici, il parle du casque de l'espérance du salut. L'espérance. Pourquoi mettre un casque le matin quand on se lève? Parce que tout comme on doit protéger son cœur, on doit protéger son esprit. D'ailleurs, est-ce que notre esprit est ici? Je me pose toujours la question, où est mon esprit? Mon intelligence? Enfin, le peu que j'ai est quelque part là-haut. J'ai quelque chose ici. Mais nous devons protéger notre tête. Et vous savez, il y a un monde qui cherche à dominer notre intelligence, notre cerveau. Qu'on soit enfant, qu'on soit ado, qu'on soit étudiant, qu'on soit personne âgée, tout veut dominer notre esprit. D'où l'importance de mettre le casque du salut, de protéger notre intelligence, notre esprit, notre cerveau, de toutes les attaques, qui viennent de tous milieux, qui veulent dominer notre intelligence. Nous devons mettre le casque de l'espérance du salut, qui chasse les doutes. Un verset que Brigitte et moi nous aimons beaucoup depuis qu'on est mariés, c'est un verset qui dit « Nous travaillons et nous luttons. » Car notre esprit, dans la foi chrétienne, hein, pas en tant que couple, donc parce que notre foi est dans le Dieu vivant, notre espérance est en lui. Dans le travail, dans la lutte, dans le combat chrétien, nous devons mettre notre espérance dans le Seigneur. Et l'espérance, c'est avoir la foi pour le long terme. Et grâce à l'espérance chrétienne, nous pouvons dire, j'ai été sauvé, je suis sauvé, je serai sauvé. On dit que l'espérance fait vivre, ou l'espoir fait vivre, mais l'espérance nous permet aussi de mourir. En 1553, il y a presque... Je ne sais pas combien, 450 ans, sur la place du terreau, donc pas loin d'ici, 5 chrétiens allaient être brûlés vifs pour leur foi. Quelques jours auparavant, Jean Calvin, qui était en Suisse, leur a écrit, et dans son courrier que j'ai à la maison, il a dit, parmi d'autres choses, « Je prie que vous gardiez votre confiance en Dieu pour le salut éternel de vos âmes. » Les martyrs ont reçu ce courrier quelques jours avant d'être brûlés vifs. Et juste avant d'être brûlés vifs sur la place des terreaux, le plus ancien parmi eux a demandé « Est-ce que je peux dire un dernier mot ?» Et le lieutenant, je n'ai plus comment il s'appelait, j'avais son nom en tête l'autre jour. Il a dit bien sûr, donc Martial, l'aîné, est allé embrasser ses 4 frères en disant tout simplement « Adieu ». Et puis, on a mis le feu, et les 5 ont été brûlés vifs. mais ils avaient leur espérance dans le Seigneur. Et Calvin a prié depuis Genève, j'ai prié que vous gardiez espérance dans le Seigneur. Notre espoir, notre espérance, ou on peut dire notre certitude, c'est un jour nous serons avec le Seigneur. Un jour nous serons auprès de lui. L'espoir fait vivre, mais l'espoir ou l'espérance nous permet aussi de mourir, malgré des injustices, malgré des choses qu'on peut subir difficilement. Le Seigneur nous aide à tenir bon. Dans notre vie chrétienne, on peut dire, le Seigneur s'attend à ce que chaque chrétien fasse son devoir. C'est un grand chef militaire qui a dit cela, pas tout à fait cela, il a dit, l'Angleterre s'attend à ce que chacun fasse son devoir. Nous n'aimons pas les Anglais, donc ne les critiquons pas, mais le Seigneur s'attend à ce que chaque chrétien fasse son devoir. Et si nous faisons notre devoir, ça veut dire que nous serons des chrétiens fidèles, notre amour sera visible et notre espérance sera aussi tangible, réelle et quelque chose de concret. Est-ce que nous sommes des chrétiens consacrés? On pourrait changer le monde si nous étions tous des chrétiens consacrés. Il y a 2 ans demain, il y a eu un mariage en Angleterre. Je sais qu'on ne parle pas anglais, mais on en parle tout le temps. Peut-être c'est enregistré, il faut que tu fasses attention. Non, tu coupes, d'accord. C'est un mariage entre le prince William et Kate Middleton. Et au début de cette cérémonie de mariage, l'évêque de Londres s'est adressé au couple en leur disant ceci. Si vous êtes ce que Dieu veut que vous soyez, vous mettrez le monde sens dessus-dessous. Si on reprend cette phrase, si on reformule cette phrase, on peut dire, si nous sommes, nous, les chrétiens que Dieu veut que nous soyons, nous mettrons le monde sens dessus-dessous. Commençons avec notre quartier. Commençons avec notre famille. Commençons avec notre cœur. Que le Seigneur nous aide à être des chrétiens consacrés. Que le Seigneur nous aide à être des chrétiens fidèles, dévoués, loyaux, solides. Et il y aura des changements déjà dans notre cœur et autour de nous. Que Dieu fasse de nous des chrétiens consacrés. Amen.